Alors, de quoi voulez-vous que nous parlions ?
Surtout de vos intérêts politiques, parce que, enfin, nous nous mettons dans une position de martiens, disons, qui ne connaissent absolument pas la vie politique en France. Et ce qui nous intéresserait, ce serait que vous nous expliquiez d'abord, par exemple, ce que c'est que le groupe que vous représentez, qui s'appelait, je sais, Centre démocrate, mais qui a déjà changé de nom.
Oui, non, il n'a pas tout à fait changé de nom. Et... Mais enfin, vous avez raison, en ce sens que d'une élection sur l'autre, il y a un sigle nouveau qui a apparu. En ce sens que en 67, aux premières élections législatives, celles auxquelles j'ai été candidat ici à Orléans pour la première fois, et pour la première fois de ma vie d'ailleurs, et nous avions comme étiquette simplement le Centre démocrate, qui correspondait à un mouvement politique qui venait de se créer pratiquement sous l'impulsion de Jean Canuet, qui avait été candidat aux élections présidentielles contre le général de Gaulle, et en concurrence avec François Mitran, la Fédération de la Gauche, et puis deux ou trois autres candidats, Tixier Vignancourt, peu importe. Donc la candidature de Jean de Canuet avait, si vous voulez, déclenché la naissance d'un mouvement politique nouveau qui était le Centre démocrate. Et c'est sous ce sigle-là qu'on s'était présenté aux élections législatives de 67. Malheureusement de notre point de vue, nous n'avons pas eu le succès que nous espérions, ou plus exactement, et si nous avons eu à peu près en nombre de voix les résultats que nous pouvions espérer, du fait du mécanisme de la loi électorale, nous n'avons pas eu à l'Assemblée un nombre de députés suffisant pour constituer un groupe homogène, parce qu'il faut un nombre de députés déterminé, qui est, je crois, de 40, et pour pouvoir constituer un groupe homogène. Et vous savez qu'à l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment ça se passe au Parlement en Angleterre, mais enfin, à l'Assemblée nationale en France, un député qui n'est pas inscrit, qui ne fait pas partie d'un groupe, est privé d'un certain nombre de moyens d'action importants, présence dans des commissions notamment, puisque c'est surtout dans les commissions que se fait le travail important. Et il n'était pas pensable que les 30 et quelques députés qui avaient été élus sous l'étiquette Centre démocrate puissent se trouver comme ça, dispersés dans la nature. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux auraient probablement finalement rallié un groupe. Donc il fallait constituer un groupe, mais on ne pouvait pas le constituer sous l'étiquette Centre démocrate, puisque ça aurait supposé que, pour atteindre les 40, que les 7 ou 8 députés qui manquaient acceptent de prendre une étiquette que précisément ils n'avaient pas voulu prendre pour les élections. Il a donc fallu trouver un compromis et constituer un groupe qui rassemble à la fois les députés du Centre démocrate et ceux qui ne s'en sentaient voisins, mais n'en étaient que voisins. Et ça a été la naissance de l'étiquette PDM, Progrès et Démocratie Moderne, dont M. Jacques Duhamel a été le président. Alors M. Jacques Duhamel a été le président, et non pas M. Le Canuet, pour l'excellente raison que M. Le Canuet n'était pas député. Il fait partie du Parlement, mais de l'autre chambre, le Sénat, et pour des raisons d'opportunité personnelle, il n'avait pas jugé possible de se présenter à ces élections. Alors si bien qu'on s'est trouvé après ces élections devant un parti politique qui s'appelle Centre démocrate et un groupe parlementaire au sein duquel se trouvaient les députés élus par le Centre démocrate, mais qui n'avait pas l'étiquette Centre démocrate, qui avait l'étiquette PDM. Et puis l'évolution des choses a fait que Jacques Duhamel, étant député et président du groupe PDM, a pris une personnalité un petit peu, indépendante de celle de Jean de Canuet. On a pu même parler d'une certaine concurrence entre les deux leaders, l'un étant le leader parlementaire, l'autre étant le leader politique. Et quand, après les événements de mai dernier, se sont présentées de nouvelles élections, la question s'est effectivement posée de savoir sous quelle étiquette on se présenterait. de façon d'ailleurs à avoir le maximum de chances de rallier d'autres candidats, puisque aussi bien les députés PDM que le Centre démocrate avaient comme ambition, en définitive, toujours de s'élargir et de devenir, non pas un petit groupuscule, mais de devenir un point de rassemblement des différentes tendances politiques sur la gauche et sur la droite. Et comme en fait il y avait un accord, malgré certaines demandes, toujours des questions de personnes, mais enfin il y avait un accord politique réel et certain entre Jean Le Canuet, président du Centre démocrate, et Jacques Duhamel, président du groupe parlementaire, c'est pour cette raison que les députés qui se sont présentés, ou plutôt les députés, les candidats, et qui se sont présentés aux dernières élections législatives, et ce fut mon cas, et ce fut le cas de mes amis ici sur Orléans, Madame Dupuis notamment, l'ont fait sous la double étiquette Centre démocrate et PDM. Pour des raisons donc qui à l'origine étaient purement techniques, qui étaient simplement le fait que la nécessité de constituer un groupe parlementaire. Alors, en fait, mais il n'y a pas eu de changement politique, il n'y a pas eu naissance d'un nouveau parti politique. Il y a le fait que, malheureusement d'ailleurs, les résultats de ces élections n'ont pas été meilleurs que les précédentes. Et on s'est trouvé d'ailleurs devant le même problème d'avoir à constituer ce groupe, alors qu'il a gardé son étiquette PDM, mais auquel il a fallu ajouter d'autres personnes. Enfin, ce qui pose toujours d'ailleurs des problèmes d'ordre politique à plus ou moins long terme. Je crois avoir répondu, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu long, mais enfin...
Non, c'était très intéressant.
Je crois à cette première question, donc, en ce qui concerne l'appellation Centre démocrate et PDM.
Oui, je vous remercie. Je voudrais vous poser une question qui ressort de ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la manière dont les lois électorales ne vous ont pas permis de faire élire plus de députés, je crois. Vous pourriez nous expliquer comment cela se passe, que les lois électorales vous empêchent de...
Oui, mais parce que vous savez que nous avons un système qui n'est pas... Je crois qu'en Angleterre, le scrutin est majoritaire à un tour.
Oui.
C'est-à-dire que dès le premier tour, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix qui est élu. Hein? En France, nous avons un scrutin majoritaire à deux tours, c'est-à-dire que c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix dès le premier tour, à la condition toutefois que ce nombre de voix soit supérieur à un certain quorum, c'est-à-dire qu'il représente la majorité absolue des votants, ce qui fait que dans un certain nombre de cas, ce n'est pas possible, et qu'on a donc un deuxième tour où doivent à ce moment-là se manifester des désistements, etc. Donc cette petite cuisine. De toutes les façons, il y a toujours en définitive des partages, si vous voulez, entre des grandes tendances et qui font que les tendances intermédiaires sont obligées de s'effacer. Et c'est parce que cela tient en fait, si vous voulez, à l'existence en France d'une certaine pluralité de partis politiques que vous ne connaissez pas en Angleterre, où il y a malgré tout... évidemment les travaillistes, les conservateurs, et puis je crois les libéraux, mais qui en fait il y a surtout les travaillistes et les conservateurs. Bon. C'est évidemment cette notion de bipartisme qui est une des grandes idées d'ailleurs du régime actuel, qui voudrait qu'on trouve en France ce même bipartisme, puisqu'il semble avoir fait ses preuves depuis des siècles en Angleterre, il semble être donc une espèce de garantie d'une vie démocratique. Malheureusement, il y a un fait. Là, j'exprime des opinions.
Oui.
Et il y a un fait qui, en France, nous paraît rendre la chose tout à fait impossible, c'est l'existence d'un parti communiste. Et il y a bien un parti communiste en Angleterre, mais enfin, il est très loin d'avoir l'audience qu'il a en France, parce qu'en fait, le parti communiste en France, et ça c'est un fait politique, dont il faut bien tenir compte, et le plus grand compte représente 25% des électeurs. Par conséquent, et c'est, si vous voulez, là, vous touchez précisément une des raisons profondes, personnellement, de mon engagement politique et de tous ceux de mes amis au Centre démocrate, nous sommes convaincus que si on s'oriente, comme on le fait d'ailleurs effectivement, vers ce bipartisme, ça ne peut être à terme qu'au profit du Parti communiste. Et d'ailleurs, tout ce à quoi on a assisté l'a bien démontré, car la Fédération de la Gauche, pour exister politiquement, n'a pas eu d'autre ressource que de s'allier avec le Parti communiste. Et nous pensons, nous, et les événements récents semblent nous donner raison, que toute alliance avec le Parti communiste comporte des dangers extrêmement graves.
Est-ce que d'après vous, l'évolution du Parti communiste vers une ligne, disons, doukhtchèque, pourrait changer quelque chose à cet état de fait?
Alors là, je vous avoue très franchement que c'est une question que je me pose, je m'interroge. Je m'interroge, parce qu'il y a deux façons de considérer les questions. Moi, je reste intimement et personnellement convaincu que de toute façon, cette évolution ne changera rien à la nature profonde du communisme. Et que Dubček ou pas Dubček, je suis fondamentalement hostile à l'instauration d'un régime communiste en France. Je me réjouis que partant d'un régime communiste qui leur a été imposé, les Tchécoslovaques évoluent, et je suis de tout cœur avec Dubček. Mais enfin, personnellement, je ne pense pas qu'on ait besoin, nous, de faire le chemin inverse et de rejoindre les positions d'Oubchek, puisque j'estime que tout de même, il est possible d'obtenir un certain nombre de choses sans passer par cette voie. Mais ceci étant, c'est tout de même... Donc, alors, ça, je m'excuse parce que je ne répondais pas complètement à votre question. Ça, c'est ma conviction personnelle. Il reste à savoir quelle va être l'incidence de l'évolution du Parti communiste et des positions qu'il a prises, et qui ont été extrêmement habiles d'ailleurs, et parce qu'en fait, quand on y regarde au fond, c'est ni chair ni poisson, mais enfin, il est certain que notamment, j'ai gardé le numéro de l'Humanité qui a sorti aussitôt l'agression, et évidemment, on pouvait être un peu surpris, et c'était pas habituel de voir cette réprobation étalée en première page, surtout à largeur de la première page, c'était moins des positions gênées, embarrassées qu'on avait connues dans d'autres périodes. Donc là, il y avait au départ une position franche qui était de nature à impressionner l'opinion. Alors l'opinion, elle est faite de tous les gens qui réfléchissent, des journalistes, des dirigeants politiques, syndicalistes, etc. Mais enfin, elle est aussi faite de la masse des électeurs, et on s'aperçoit qu'il y a souvent un décalage entre les deux. Comment l'électeur moyen va-t-il réagir? Ça, j'en sais rien. Et il est possible que, effectivement, je m'excuse de l'expression, mais enfin, ils tombent dans le panneau et qu'ils se disent, maintenant, au fond, les communistes, c'est vraiment les communistes français, après tout, c'est simplement un parti socialiste amélioré, il n'y a plus tellement de danger, puisque on sait bien que maintenant, cette autre idée aussi que, après tout, les Russes ne s'intéressent plus tellement à ce qui est de l'autre côté du rideau de fer, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe en ça et ça, et ils le font avec beaucoup d'énergie, mais au fond, les partis communistes italiens, français, ça ne les intéresse pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai entendu développer par certains commentateurs. Tout ça peut effectivement avoir une certaine résonance dans l'opinion et se dire, après tout, le Parti communiste français n'est plus si dangereux que ça, par conséquent, allons-y. C'est possible. C'est pourquoi je vous dis, moi je m'interroge aussi, j'en sais rien, et pour ça il faudrait avoir des tests qu'on n'a pas encore actuellement pour se rendre compte si dans quel sens ça va jouer. Est-ce que c'est la position national du Parti communiste français qui va l'emporter sur le choc qu'a provoqué l'attitude de la Russie.
Vous avez répondu à la moitié d'une question que je me proposais déjà d'ailleurs de vous poser, hein, sur la question comment se définit le centre vis-à-vis des deux côtés. Vous avez dit comment plus ou moins vous définissez vis-à-vis de la gauche communiste. De l'autre côté, comment voyez-vous votre opposition de principe, disons, avec les partis de droite?
D'abord, je retiens que quand vous dites les partis de droite, d'emblée, vous classez le gaullisme dans les partis de droite.
C'est surtout votre propre position, n'est-ce pas? C'est pas...
Non, alors je pense justement que moi, je ne classe pas le gaullisme dans les partis de droite. J'ai toujours considéré, et je considère encore, et même si les événements ne m'ont pas pour l'instant encouragé dans cette voie, je reste intimement convaincu que le gaullisme est un phénomène transitoire. Il ne correspond pas à un courant politique fondamental en France. Ou s'il y correspondait, c'est dans ce qu'il a de moins bon. C'est l'aptitude. Alors, ça me gêne un peu de dire ça devant des amis, enfin, fût-il des amis quand même des étrangers, mais enfin. Je suis quand même obligé de considérer que les Français ont toujours une fâcheuse aptitude à se mettre au garde à vous devant certains hommes qui les subjuguent. Et c'est curieux, mais enfin, il y a là une certaine difficulté à se plier à une véritable discipline d'une vie démocratique. Mais je pense que malgré tout, si on n'a jamais de prolongement durable, Le gaullisme laissera certainement des traces profondes, il y a eu certainement des choses excellentes, de fait d'ailleurs, il ne s'agit évidemment pas d'être stupide, mais je pense que le gaullisme en tant que tel ne survivra pas à De Gaulle. Que par conséquent, et d'ailleurs, les récentes élections l'illustrent assez bien, et qu'est-ce qu'il y a de plus disparate, de plus composite, si on l'analyse par rapport à des problèmes concrets, et que cette majorité qui va véritablement de la gauche et qui frise presque pour certains, je ne dis pas l'extrême gauche, enfin si presque l'extrême gauche et la droite. Donc véritablement, ça ne tient qu'à un seul facteur, c'est-à-dire la personnalité du général de Gaulle, la personnalité du général de Gaulle que les Français apprécient. Et pour elles-mêmes, parce qu'ils sont gaullistes, enfin certains d'entre eux, gaullistes dans l'âme, ils considèrent que c'est l'homme providentiel, qu'il a toutes les qualités, ou d'autres tout simplement parce qu'ils ont une trouille noire, et dans l'hypothèse où ils s'en iraient, du vide qu'ils laisseraient. Moyennant quoi, ils continuent de s'y accrocher tout en le critiquant, tout en ne l'aimant pas, tout en. Enfin, on dit, il est là, et après lui, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, je crois, si vous voulez, qu'une fois effectivement De Gaulle parti, parce qu'il y aura quand même un après-gaullisme, toutes ces forces qu'il a rassemblées et qui ne tiennent qu'à sa personne et se dissocieront et qu'il faudra bien retrouver des courants politiques normaux, parce qu'on n'aura pas toujours un général De Gaulle à se mettre sous la main. Et par conséquent, il faudra bien à ce moment-là retrouver un style de vie politique classique. Et la seule chose que justement je crains, c'est que ce vide qu'il aura laissé ne crée un déséquilibre tel qu'on ait du mal à faire la transition et à rester dans la ligne démocratique normale. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, pour moi, les événements du mois de mai et du mois de juin ont été terriblement inquiétants. Dans la mesure où on sent qu'il y a malgré tout dans les profondeurs des forces qui peuvent en quelques instants, parce que les quelques jours, les quelques semaines qu'on a vécues ont quand même eu un aspect de soudaineté, de choses qui avaient été absolument imprévues, et qui paraissaient d'ailleurs même imprévisibles, et qui laissent tout de même un petit peu songeur sur ce qui pourrait se passer si demain il n'y avait plus des forces de résistance suffisantes.
À ce propos, est-ce qu'on pourrait vous demander comment vous expliquez ces événements qui se sont passés en mai-juin ?
Des explications, il y en a certainement plusieurs, mais enfin, si vous voulez, moi je la résumerai en ce sens que précisément le style même du pouvoir a complètement ignoré un certain nombre de réalités de la vie politique, de la vie syndicale, enfin de la vie profonde du pays. On ne gouverne pas indéfiniment un pays en se moquant éperdument de la vie des gens, en les informant simplement à travers des conférences de presse et sans tenir compte ni de l'avis des conseils municipaux, ni des conseils généraux, ni des syndicats. Et alors bien sûr, c'est la grande découverte, maintenant on s'oriente vers la participation. Mais je pense qu'on s'oriente vers la participation d'une manière assez verbale, et c'est pour ça que je reste inquiet. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de changé. Vous avez pu peut-être voir comme moi, par la presse et la radio hier, que les grands projets qui vont être soumis aux Français sur la réforme du Sénat, l'institution de conseils régionaux et la participation dans les entreprises, eh bien, les ministres, et certains ministres, et pas tous, en ont été informés, en même temps que vous et moi d'ailleurs, par une note de l'Élysée. Enfin, c'est quand même des méthodes de gouvernement, enfin, qui, pour moi, qui restent fondamentalement démocrates, sont un peu ahurissantes. Hein, l'Élysée a pondu des notes, on dit voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis les ministres, qui sont quand même les responsables du gouvernement, et encore pas tous, le reçoivent en même temps que. Alors les autres l'ont appris par le journal, comme vous et comme moi, ou par la radio. Bon, je pense que c'est toute la conception fondamentale qui fait que ça vient d'en haut et puis ça descend en bas plus ou moins bien, et qui, à notre sens, est antidémocratique.
Est-ce qu'on pourrait vous demander alors, d'après vous, comment devraient être décidées ces réformes, en prenant deux domaines, par exemple le domaine économique et le domaine de l'éducation, puisque en ce moment ce sont les deux problèmes les plus importants.
Bien, je pense que ces projets, parce qu'il y a quelqu'un dont on ne parle pas du tout là-dedans, mais il y a quand même un Parlement. Et dans mon esprit, le Parlement est quand même fait pour délibérer, établir des projets. J'admets que dans certaines circonstances, il faille que l'exécutif entoure certains projets d'un certain secteur. Je suis en train de relire actuellement, de lire plutôt, un bouquin qui est paru il y a peu de temps sur Robert Schuman. Et je lisais précisément hier soir un passage relatif à la façon dont Robert Schuman a lancé son fameux plan Schuman, communauté européenne du charbon et de l'acier, etc. Bon, il est certain qu'au départ, un projet comme celui-ci, pour avoir une chance d'aboutir, ne pouvait pas être étalé sur la place publique avant que d'avoir pris une certaine consistance. Mais enfin, il est bien certain aussi que la première chose qu'il a faite, dès que, avec Jean Monnet et quelques autres qui en avaient la responsabilité, la première chose qu'il a faite, ça a quand même été d'en informer le gouvernement, ses collègues du gouvernement, et puis de ne rendre les choses publiques qu'après que le gouvernement ait eu, et puis ensuite il y a eu des délibérations à l'Assemblée. Et tandis que là, on va directement, on informe, et encore par note, et non pas par délibération, et certain nombre de gouvernements. Et puis il n'est pas du tout question pour l'instant de délibération de l'Assemblée. De toute façon, on sait bien que l'Assemblée sera simplement invitée à ratifier, pour peu qu'on lui en parle. Alors que je crois que, encore une fois, il me semble tout de même que le Parlement a là une vocation toute particulière à délibérer de projets comme cela. Et je pense que, par exemple, personnellement, j'envisageais, il me semblait que M. Edgar Faure, qui se livre actuellement à tout un travail tout à fait nécessaire, de rencontres, d'études, d'examens, mais tout ça devrait aboutir à l'établissement de projets qui devraient être soumis d'abord aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et discutés par l'Assemblée nationale. Alors qu'il soit du rôle du ministre, effectivement, de déblayer le terrain et de prendre certaines responsabilités, de déterminer dès maintenant certaines orientations et d'en faire un projet qui rend la caution du gouvernement, qui représentera ce sur quoi le gouvernement est prêt à s'engager. C'est une chose, mais qu'ensuite, tout de même, l'Assemblée nationale, et d'ailleurs, il me semble que touche-là un domaine qui ressort en définitive, précisément, des attributions d'un Parlement.
Est-ce que vous voyez que le mot de participation puisse avoir un sens réel et non verbal, n'est-ce pas, à d'autres échelons de la vie économique et sociale, en dehors du Parlement ? Dans l'industrie, dans l'éducation, par exemple.
Je pense que ce mot de participation, faut d'abord, comme tous les mots, il finit par se vider de son sens à force d'être un peu trop usé et mis à toutes les sauces. Enfin, il est indiscutable qu'il recouvre une réalité, enfin, il devrait recouvrir une réalité. Je pense, pour ma part, comme je dis, parce que ça a été d'ailleurs un des thèmes sur lequel j'ai beaucoup insisté pendant la brève campagne électorale, que ça doit commencer par une participation sur le plan politique, qu'il ne peut pas y avoir de dialogue dans les différents échelons du pays s'il n'y a pas d'abord un dialogue entre le gouvernement et le Parlement, qu'on ne peut pas parler de vie démocratique dans le pays si cette vie démocratique n'existe pas d'abord au stade politique et si le Parlement ne joue pas son rôle. Mais il est certain que ça doit se retrouver dans les autres stades du pays, mais tout de même, il faudrait bien définir aussi ce qu'on veut dire par là. Hein, parce que je vois pas très bien, la définition commune qu'on pourrait donner à la participation dans l'entreprise, aux échelons économiques, et puis le mot appliqué à l'université, c'est pas du tout. Les choses sont pas de même nature, à mon sens.
Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous voyez les choses dans ces deux domaines, enfin, si vous voyez des applications possibles du mot participation, enfin, dans quel sens?
Je pense que, si vous voulez, sur le plan économique, là encore, ça peut aller depuis la co-gestion ouvrière, qui est en définitive ce que demande le but des communistes, et puis tout simplement, à l'autre extrême, un vague rôle d'information. Je pense qu'entre tout ça, je pense qu'il est justement très, très difficile d'avoir l'air de donner des solutions toutes faites. Pour ma part, il faut examiner tous les cas concrets. C'est plutôt un esprit avec lequel on regardera les choses. Et il y a tout de même un certain nombre de principes aussi qu'il faut poser. Est-ce qu'on va nier toute valeur à la direction des entreprises, par exemple? Alors là, personnellement, je dis carrément que non. Il est nécessaire qu'on maintienne le principe d'une autorité, d'une direction, d'une responsabilité dans les entreprises. Et j'avais eu sous les yeux des notes, enfin des tables notes de service, qui avaient été répandues dans le siège d'une compagnie d'assurance importante que je représente, qui est pourtant une compagnie nationalisée. Mais ceci pendant les événements de mai et juin, et vous voyez des choses absolument effarantes. Alors, si c'est cette participation-là, moi, il est certain que j'en veux pas. Il était dit, par exemple, j'ai dû les garder, je sais pas où je les ai dit, que les chefs de service seraient nommés par les employés réunis en assemblée générale, que les chefs de service exerceraient leurs fonctions sous le contrôle constant des employés et qu'ils seraient révocables à tout moment. Ça, c'est évident que c'est une forme de participation. Enfin, j'ai hésité à croire que ce fut sérieux, mais enfin, il paraît qu'il y a des gens qui l'ont pris au sérieux pendant un certain temps. Certain que ça tient pas debout. Bon. Maintenant, j'ai personnellement vécu pendant quelques années dans une entreprise industrielle importante où j'avais des responsabilités de direction à l'échelon d'une usine. Il y avait au-dessus de moi un siège social. Il est certain que la façon dont la direction générale de cette société concevait son rôle de direction, là, à l'inverse, je ne pouvais pas être d'accord non plus qu'à partir du moment où responsables de la direction d'une usine, nous recevions par note de service des instructions visant à licencier 50 personnes ou 100 personnes sans qu'il y ait eu la moindre possibilité de dialogue, même à l'échelon des cadres, sans même parler alors des échelons représentatifs du personnel. Et alors ça aussi c'est aberrant à l'autre extrémité. Alors si vous voulez, c'est entre ces deux pôles, hein, la caricature de soviet, parce que c'est encore que des caricatures de soviet, en réalité ça se passerait pas comme ça si on était en régime soviétique, hein, qui consiste à imaginer qu'à tout moment on va pouvoir dire au chef de service ça marche plus, allez hop, on est là et puis on en met un autre. Et puis au contraire, direction, alors qui évidemment du style, on pourrait dire, capitaliste dans son sens également caricatural, qui consiste à simplement envoyer des notes de service pour mettre sur le sable 50 personnes ou 100 personnes dans une usine, sans aucun examen profond du problème, sans qu'il y ait un dialogue, sans qu'il y ait quoi que ce soit. À mon avis, c'est entre ces deux pôles-là que se situent des solutions. Mais il n'y a pas de solution toute faite. À mon avis, on ne va pas régler le même problème à l'Électricité de France, et pourtant il doit bien s'y poser des problèmes de dialogue et de participation, que chez Citroën ou que dans une industrie de 150 ou 200 personnes à style vaguement familial, comme il peut y en avoir un certain nombre dans une ville comme Orléans. Alors, j'avoue que pour ça, moi, je suis assez tenté d'être pragmatique, de me défier de toutes les positions doctrinaires, parce que c'est toujours très facile de mettre sur le papier des statuts types, des règlements types. Et seulement quand on va les coller à l'entreprise Dupont ou à la société machin, ça collera absolument pas parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre les deux affaires. Prenez l'exemple, on a pensé, il y a eu après la libération en France, comme en Angleterre, je crois, on a cru que la panacée, ça allait être la nationalisation. Alors on a nationalisé à tour de bras. Et puis, il y a encore des gens qui y croient, d'ailleurs, puisque pendant ma campagne électorale, plusieurs fois, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des nationalisations? Est-ce que vous, si vous étiez député, vous voteriez les nationalisations de ceci, de cela, etc. Et une fois, la réponse, j'ai pas eu besoin de la faire, parce qu'il y avait dans l'assistance un ouvrier de chez Renault, et puis qui a répondu pour moi en disant, ben moi, je suis chez Renault, on est nationalisé depuis la libération. Et puis, eh bien, mon sort, il est moins bon que celui de chez Peugeot. Et encore, jusqu'en 58, on avait droit à des participations aux bénéfices. Et puis, depuis 58, depuis que c'est le régime gaulliste, les participations aux bénéfices ont disparu. Et en définitive, je crois que si vous voulez, la nationalisation, Aichon de Renault ont peut-être réglé certains problèmes, je ne vois pas encore tellement lesquels, si ce n'est peut-être pour les caisses de l'État, mais elles n'en ont certainement à peu près réglé aucun à l'échelon social, puisque pratiquement, et on l'a vu d'ailleurs dans ces événements, il n'y a pas de différence fondamentale entre le sort des employés de chez Renault et ceux de chez Citroën ou de chez Peugeot. Ça ne veut pas dire que les nationalisations ne résolvent rien. Si on prend le problème de l'électricité, par contre, je suis bien convaincu, ou celui des chemins de fer, que la SNCF et l'EDF ont fait des choses que n'auraient pas pu faire. Et la multiplicité des sociétés qui existaient autrefois, et que le fait que ce soit des services publics a permis un certain nombre de choses dans l'ordre des investissements qui n'auraient pas pu être réalisés aussi facilement de la même façon. Mais je ne crois pas que, là encore, on ait des positions de principe, d'une manière systématique contre la nationalisation, mais pas davantage en pensant que la nationalisation résoudront tous les problèmes. Alors en général, d'ailleurs, c'est assez difficile parce que les Français aiment bien qu'on leur dise des trucs. J'avoue que c'est pas très électoral ce que je vous raconte, parce que j'en ai fait l'expérience.
Oui, à ce propos, nous voudrions savoir un peu de votre carrière personnelle, si vous permettez, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la politique et vous présenter comme candidat.
Ça, je veux bien, c'est assez particulier, mais enfin, après tout, pour chacun, c'est toujours particulier. Et d'abord, je ne suis orléanais que depuis bientôt 5 ans. Donc, si vous voulez, déjà, c'est un premier fait un peu particulier que dans une ville de province comme Orléans, j'ai pu être candidat, alors que pratiquement, je ne suis pas orléanais, je n'étais pas connu des orléanais. Enfin, pas beaucoup. Et j'étais à Rouen, qui est une autre ville de province, que vous connaissez peut-être, où j'ai fait, j'avais toute ma famille, j'ai fait mes études, etc. Et je dois dire que, étant très jeune étudiant, enfin, je me suis orienté à la fois dans l'action catholique, les mouvements d'action catholique, et au moment de la période précédente de la libération, dans la résistance. Ce qui fait que je me suis retrouvé à la libération à Rouen, dans un comité de libération d'une part, et j'ai failli être élu maire d'ailleurs d'une petite commune, mais j'étais trop jeune, et Dieu merci je ne l'ai pas été, et, parce qu'à ce moment-là c'était pas confortable du tout d'ailleurs, mais j'ai été surtout secrétaire d'organisation de jeunesse, et il y avait eu un vaste rassemblement de toutes les organisations de jeunesse qu'on appelait Union Patriotique des Organisations de Jeunesse, dont j'ai été le co-secrétaire, parce que c'était un esprit très démocratique, et comme il y avait là tout le monde, y compris les communistes, pour être sûr que l'un ne domine pas sur l'autre, il y avait toujours deux co-secrétaires. Et j'avais d'ailleurs à cette époque-là comme co-secrétaire, et un garçon de mon âge, qui était secrétaire des jeunesses communistes, et qui lui a fait une carrière plus brillante que la mienne, puisque c'est Roland Leroy qui est membre du comité central du Parti communiste ici à Paris. Et puis, il se trouve que pour des raisons personnelles, familiales, mon père est décédé prématurément, victime de la guerre d'ailleurs, et je me suis trouvé chargé de famille, et je me suis un peu écarté de cette carrière politique que j'aurais pu donc commencer très jeune, et je me suis contenté d'activités professionnelles et surtout sociales. Alors je me suis intéressé beaucoup à des questions de sécurité sociale, d'allocation familiale, de mouvements familiaux, et j'ai été pendant très longtemps administrateur de caisses, président d'un tas de trucs, enfin, et tout ça toujours sur le plan uniquement social. Et à ce moment-là, je n'ai plus eu du tout d'activité politique. Mais il se trouve que j'avais un de mes amis à Rouen, dont on a parlé par la suite, qui était Jean de Canoë. Et qui était un ami personnel. Je trouve que à titre d'ami personnel, j'ai un peu suivi certaines choses, participé avec beaucoup d'autres. Par exemple, à sa première campagne pour entrer au conseil municipal. Enfin, je ne suis pas moi-même entré au conseil municipal. Je ne voulais pas faire politique. Je ne voulais pas m'engager politiquement. J'estimais que j'avais suffisamment de choses à faire. Et c'était vrai d'ailleurs, j'en avais beaucoup. Et je ne voulais pas. Et il se trouve que pour des raisons professionnelles, parce que j'ai voulu prendre ce cabinet, ça, c'est une question personnelle, familiale, enfin, ce serait sans intérêt, trop compliqué à vous raconter. Je suis donc arrivé ici, à Orléans, où je ne connaissais pratiquement personne. Du même coup, je me suis trouvé délesté de toute espèce de responsabilité sociale ou quelconque. Et j'avoue que d'ailleurs, j'en étais bien content en me disant, ben, je vais m'opposer, puis je vais pouvoir réfléchir parce que j'en avais un peu assez, tout le temps parti à droite, à gauche, dans des réunions. Et même sur le plan familial, tout ça, ça posait des petits problèmes. Je suis donc bien content de me dire, ben, je vais me retrouver ici, avoir que mon affaire professionnelle à m'occuper, et puis promener mes enfants le dimanche, ce sera très bien. Et puis, je pensais vraiment qu'il y en avait pour un sacré bout de temps, parce que dans une ville comme Orléans, je ne voyais pas très bien quand j'aurais pu me trouver amené à faire autre chose, si ce n'est une chose tout à fait à côté. Or, il y a eu les élections présidentielles. Et il s'est trouvé que Jean Le Canuet s'est présenté, ce qui était absolument imprévisible. Jean Le Canuet n'était pas une personnalité politique très connue avant. Enfin, il a fallu les élections présidentielles pour qu'il soit connu à l'échelon national. Et puis, bah, comme c'est un ami, je suis fait connaître ici à ceux qui soutenaient sa candidature. Un peu partout, il y a eu des comités de soutien de sa candidature. Je me suis fait connaître en me disant que j'étais prêt à donner un petit coup de main, mais par amitié, si vous voulez, simplement. Et puis, après les élections présidentielles, il y a eu la constitution du Centre démocrate, si bien que les gens d'Orléans ici, et qui avaient soutenu Jean Le Canuet et qui désiraient participer à la constitution du Centre démocrate, m'ont invité à une réunion à laquelle j'ai la faiblesse de ne pas refuser d'aller. Et puis là, il y avait un certain nombre de personnes, toutes orléanaises, anciens députés, sénateurs, conseillers municipaux, enfin des tas de gens. Moi, je venais là un petit peu par curiosité. Et puis, je sais pas comment ça s'est fait, mais quand je suis reparti le soir, le lendemain matin, j'ai annoncé à ma femme que je me trouvais président du Centre démocrate du Loiret. J'en étais le premier surpris et je ne comprenais pas très bien comment ça s'était passé. Alors l'explication était très simple, c'est que ben, vous connaissez bien Jean Le Canuet, vous avez sa confiance, d'une part, et d'autre part, ben, le Centre démocrate veut se manifester comme quelque chose qui est différent des autres partis politiques, qui amène un facteur de nouveauté dans la vie politique. Or, nous tous qui sommes ici, nous sommes bien connus pour avoir été député MRP, pour être secrétaire du Parti radical, pour avoir été conseiller municipal indépendant, pour être adjoint au maire, etc. Ou pour être militant de ceci, militant de cela. Vous, on ne vous connaît pas. Donc, si on ne vous connaît pas, vous êtes nouveau. Alors, il nous faut quelqu'un de nouveau, là, vous ne pouvez pas refuser, etc. C'est en gros le raisonnement, si vous voulez. Qui... Alors, j'avoue que... ça m'a un petit peu amusé, et puis au fond, tout de même, je dois dire, parce que je viens de présenter ça sous un jour uniquement anecdotique, qui est absolument authentique et vrai, mais enfin, et j'y avais aussi quand même le fait que je croyais profondément qu'effectivement, il était nécessaire de faire quelque chose de nouveau, que les anciens partis politiques avaient échoué, que le gaullisme ne réussirait pas à faire quelque chose de durable en tant que courant politique permanent, que par conséquent il y avait là une chance à courir, que par-dessus le marché, tout ce que j'avais fait sur le plan social, économique, m'avait amené à constater qu'en définitive la clé de beaucoup de problèmes se trouvait à l'échelon politique, qu'on pouvait se démener tant qu'on voulait à la tête de syndicats, à la tête de mouvements familiaux, dans des conseils d'administration de caisses de sécurité sociale, dans des... J'étais beaucoup occupé aussi de questions hospitalières, j'étais administrateur des hôpitaux à Rouen, que tout ça au bout du compte, on trouvait toujours au fond des problèmes la nécessité d'une action politique, que par conséquent, ben, peut-être est-ce que c'était pour moi l'occasion de... Et puis voilà. Alors après ça, ben, il y a eu des élections, là je me suis un peu débattu pour ne pas être candidat parce que c'est une lourde charge et que je ne voyais pas de chance de succès raisonnable. En quoi d'ailleurs c'était vrai. Enfin donc je l'ai fait parce que, évidemment, à partir du moment où on a commencé à prendre une responsabilité, bien après c'est un enchaînement logique, on peut difficilement se dérober. Et à partir du moment où on s'est présenté une fois, ben, la deuxième fois, il fallait se présenter, et puis etc. Oui. Alors je ne sais pas où ça ira, mais enfin donc si vous voulez, ma carrière politique est très récente. Si j'ose parler de carrière, d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut vous demander jusqu'à quel point vous avez réussi pendant les élections?
Je comprends pas le sens de votre question, puisque réussi quoi? Parce que j'ai pas réussi, puisque j'ai pas été élu. Enfin, de toute façon, je pouvais pas réussir.
Mais enfin, vous avez, vous aviez des électeurs. Enfin.
Ah oui, tout de même, oui.
C'est ça que je voulais dire. Mais pas enfin sans aucun.
Ah pas du tout, non.
Non.
Ah non, pas du tout. Ah oui, parce que bien sûr. C'est comme si vous connaissiez les résultats. Oui.
Non, en détente.
Non. Bien, j'ai obtenu, si vous voulez, le pourcentage qu'on a obtenu en moyenne, si vous voulez, sauf ceux qui avaient des personnalités très, très marquées, mais enfin, ça se situe autour de 13 et 14% que le Centre démocrate a obtenu là où il y a eu des candidats qui n'avaient pour eux, en somme, que leur étiquette politique, quoi. Je veux dire que le résultat aurait été différent si j'avais été maire d'Orléans ou conseiller général, peut-être, et que à mon étiquette politique, ce serait ajouté des voix personnelles. Alors, de ce point de vue-là, bon, ça n'a rien démontré.
Non, évidemment.
Enfin, si, ça a démontré qu'il y avait un électorat pour des gens. Enfin, il y a des gens qui pensaient comme nous, dans un pourcentage qui est tout de même encourageant.
Est-ce que vous voyez... Pardon.
Oui, je me suis dit, non, je termine simplement, parce que si vous retirez de la fédération de la gauche, enfin de l'ensemble des votes de la gauche, le pourcentage des voix communistes, je parle alors là par référence aux élections présidentielles, où M. Mitran avait obtenu évidemment un pourcentage plus important, pratiquement nous avons autant de voix que la fédération de la gauche.
Est-ce que vous voyez votre action politique menant à la solution de problèmes qui se posent actuellement, donc à relativement court terme, ou bien, c'est une question très naïve que je vous pose, oui, mais oui. Que serait susceptible de poser nos étudiants qui ne s'y connaissent pas beaucoup en politique et qui aiment les choses simples et claires, est-ce que vous auriez une idée, par exemple, de l'état de choses qui existerait, qui pourrait exister si tous vos vœux politiques se réalisaient? Et en quoi cet état de choses serait différent de l'état de choses actuel?
Je ne sais pas si j'ai très bien compris votre question, mais je voudrais vous dire, vous me direz après si j'ai bien compris, si j'ai bien répondu, mais enfin, de toute façon, je me suis interrogé ces temps-ci, pendant les vacances précisément, un petit peu sur la signification de mon engagement politique. Puisque encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvé un petit peu, presque par accident, sur une voie, dans des conditions que je n'avais absolument pas prévues. Et d'une part, en raison de convictions personnelles, je vous rappelle quand même que... je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait de l'action catholique, et pour moi c'est ces convictions religieuses, si vous voulez, ont une importance dans la justification de mon engagement politique. Je m'excuse si j'hésite à dire ça, c'est parce que c'est un peu difficile à formuler. Dans un contexte français, où il y a d'une part une séparation très nette entre l'Église et l'État, et qui a fait pendant très longtemps peser très lourdement sur le comportement politique des catholiques en France, ceux qui avaient accepté cette séparation et ceux qui ne l'acceptaient pas, et qui étaient pendant longtemps beaucoup plus nombreux que ceux qui l'avaient accepté. Et personnellement, tout en trouvant, si vous voulez, dans mes convictions religieuses, la justification de mon engagement politique, je dois préciser tout de suite que c'est dans une optique très précise de séparation très nette de l'Église et de l'État. C'est donc, si vous voulez, une justification profonde, mais à aucun moment je ne me sens, dans mon action politique, engagé en tant que catholique, je veux dire dans la mesure où je pourrais avoir l'air d'établir une confusion entre mes positions politiques et celles de l'Église. Je suis, de ce point de vue-là, extrêmement laïque. J'ai d'ailleurs été formé depuis la maternelle jusqu'à mes études supérieures, par l'université d'État. Mais enfin, c'est quand même, parce que c'est vrai, enfin, pas des choses que je dirais dans une réunion politique, mais enfin, dans un cercle comme celui-ci, je le dis parce que je le crois important, il y a quand même une justification donc qui tienne à mes convictions religieuses comme elle pourrait pour quelqu'un d'autre tenir à ses convictions philosophiques. Et d'ailleurs, au Centre démocrate, c'est aussi une des données pour nous qui m'a séduit, que de chercher à regrouper sur le plan de l'action politique, dans un même mouvement politique, des gens qui aient des convictions religieuses et philosophiques différentes. Mais je dirais que si on y insiste, c'est dans la mesure même où précisément on pense quand même qu'une action politique valable doit reposer sur des conceptions philosophiques ou religieuses sincères, profondes, qui encore une fois peuvent être différentes. J'admettrai très parfaitement de me retrouver avec un agnostique qui se réclamerait quand même d'une certaine conviction, d'une certaine conception de la société. Je ne pense pas qu'on puisse faire, à mon sens, à moi, de bonne politique simplement par opportunisme, par ambition. Ça, c'est le premier point. Et dans cet esprit-là, si vous voulez, ça m'amène à envisager précisément, je voudrais quand même préciser, si vous voulez, quelle incidence ça peut avoir alors sur mes conceptions de la société politique. Dans cet esprit-là, je suis ouvert, si vous voulez, précisément à toutes les formules de rassemblement, toutes les formules qui peuvent conduire à une certaine unité, à un certain rapprochement. J'ai toujours été assez frappé dans mon existence de constater que les gens étaient beaucoup plus séparés en surface qu'en profondeur, que les mots recouvraient bien souvent simplement des différences de vocabulaire plus que des différences de conception. Et sur un plan très précis, pour revenir un petit peu à ce que vous demandiez tout à l'heure sur les positions du Centre démocrate, je suis personnellement de ceux qui, au sein du Centre démocrate, désirent profondément qu'ils s'élargissent et au besoin même disparaissent au profit d'une formation plus vaste. Et personnellement, je souhaite ardemment qu'un jour, les gens qui sont actuellement à la Fédération de la Gauche nous rejoignent, que nous les rejoignions, enfin comme vous voudrez, pourvu que, précisément, ils fassent cette cassure avec le Parti communiste. Car je pense qu'il y a, si demain on pouvait enfin constituer en France un parti travailliste, je serais personnellement l'un des premiers à y adhérer dans cet esprit-là. Toujours dans la mesure où il s'agit, si vous voulez, d'essayer de créer l'unité, parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas de différence fondamentale et que, par contre, entre un certain nombre de gens, et qu'il faut donc, puisqu'il n'y a pas de différence fondamentale, qu'ils arrivent à se retrouver et à créer cette unité. Et puis, alors, si vous voulez, sur un plan plus proprement politique, pour ramener à des choses essentielles, j'ai une autre conviction qui est celle qu'il faut absolument réaliser l'Europe. Et c'est aussi une des raisons de mon opposition au général de Gaulle, car je considère qu'il a jusqu'à présent freiné la construction européenne, et qu'il faut absolument qu'on abandonne la politique des nationalismes. Je ne crois absolument pas à l'Europe des patries. Et je pense que d'ailleurs, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec les interprétations qui ont été données par le gouvernement des événements de Prague.
Vous venez de dire, est-ce que la machine marche? Parce que c'est la question de savoir quelle est, on peut appeler, la clientèle de votre direction politique. Quels sont les gens qui vous soutiennent? Quelles sont leurs origines sociales?
Écoutez, ça, je ne peux. En ce qui concerne les électeurs, je peux difficilement le savoir. Les bulletins de vote ne sont pas signés. On ne peut faire que par déduction, par recoupement. Et à la suite des dernières élections, ça me paraît particulièrement difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de tels déplacements de voix que. Je peux peut-être. Enfin, je peux me rendre compte, en tout cas, par les. des militants. Alors si vous voulez, ça c'est un deuxième aspect qui m'ont soutenu et en très grand nombre. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup surpris et touché, et gêné même, parce que ça crée vraiment un sentiment de responsabilité de voir le nombre de gens, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux qui consacrent de leur temps, de leur nuit et pour des travaux, des tâches tout à fait ingrates, comme d'aller coller des affiches, d'aller coller des enveloppes, faire toutes sortes de choses qui sont, enfin, cette fois-ci il n'y a pas eu de problème, enfin, dans le passé n'ont pas toujours été sans risque d'ailleurs. Alors ça, ben, il y en a de tous les milieux. Enfin, en général, disons tout de même, un milieu, enfin, il y a tout de même beaucoup de syndicalistes, par exemple, des milieux populaires, et aussi milieu classe moyenne, petits commerçants, petits bourgeois. Alors, je crois, celui-là, en gros, on correspond tout de même à une certaine classe moyenne. Enfin, c'est assez difficile à déterminer. Ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est, d'une manière générale, la participation incontestable en nombre et en qualité des jeunes. Et ceci m'a paru particulièrement frappant, même d'une campagne électorale sur l'autre, à 15 mois, 15-17 mois de différence, de distance. Il y a eu un simple fait, je l'ai fait une vingtaine de réunions pendant les 15 jours de la campagne électorale. À toutes ces réunions, il y a toujours eu, même pour celles où il y avait très peu de monde, il y a toujours eu des jeunes. Et quand je dis des jeunes, des garçons ou des filles de 17 à 25 ans. Enfin. Et toutes les fois que dans une réunion des questions intéressantes m'ont été posées, c'est toujours par des jeunes. Les gens de ma génération, ou plus âgés en général, posaient des questions du genre « qu'est-ce que vous ferez au second tour ?» etc. Enfin, genre préoccupation, cuisine électorale, etc. Mais par contre, qu'est-ce que vous ferez, comment est-ce que vous envisagez la réforme de l'université, quelle est votre position à l'égard de l'aide aux pays sous-développés, comment est-ce que vous envisagez la participation dans les entreprises, c'est généralement des jeunes qui le posaient. Par exemple, la question sur l'aide aux pays sous-développés, qui m'a été posée plusieurs fois, elle m'a toujours été posée par des jeunes.
Vous donner un peu d'espoir pour
l'avenir. Je pense que ça donne à la fois de l'espoir et une indication très précieuse en ce qui concerne l'avenir. Et j'ai constaté depuis d'ailleurs dans mon entourage, chez des amis, dans ma famille, que effectivement, les jeunes qui avaient manifesté jusqu'il n'y a pas tellement longtemps un certain dédain de la politique, ont fait machine arrière et s'y intéressent au contraire beaucoup plus maintenant. Je pense que, je ne sais pas si c'est une des conséquences des événements du mois de mai, ou si les événements du mois de mai, dans une certaine mesure, sont une des manifestations de ce réveil politique. En tout cas, c'est un fait, et un fait, à mon avis, il faudra tenir le plus grand compte.
Vous pensez donc qu'un dialogue est possible entre les générations? Parce qu'on avait exprimé l'idée l'autre jour que ce dialogue n'existe plus.
Moi, je crois qu'il est possible. Moi, je crois qu'il est possible... Même au sein des familles, je sais que le problème se pose. Il y a beaucoup de familles qui ont eu l'impression qu'ils n'avaient plus de dialogue avec leurs enfants, qu'ils découvraient à travers leurs enfants des êtres... Enfin, ils avaient l'impression aussi, comme je disais tout à l'heure, d'avoir affaire à des martiens. Et j'ai des enfants de tous âges, j'en ai 7. Mais l'aîné a 19 ans, est à l'université ici. J'ai un garçon de 17 ans qui, lui, n'est encore qu'au lycée. Mais je peux vous assurer que chez moi, il y a le dialogue, il y a toujours eu le dialogue. Mes enfants ont participé à ma campagne électorale, mais enfin, à travers, avec eux, de leurs amis, etc. Et il y a des réunions qui se sont prolongées chez moi avec des garçons ou des filles, des camarades de mes enfants, et qui n'étaient pas toujours de mon avis du tout, non, je ne vous parle pas. Et c'était pas du tout pour me... Il y en a qui, par amitié, sont venus m'aider, tout en me disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, d'ailleurs.
Vous n'avez pas eu de problème grave avec vos
enfants
adolescents?
Aucun.
C'est rare.
Aucun. Hein. Aucun, mais c'est peut-être parce que, alors là, je vais quand même, pour une fois, essayer de me tresser des poils. C'est parce que je crois que mon épouse n'est pas là, mais enfin, je dois dire qu'en accord avec elle, depuis toujours, nous avons eu justement une politique de confiance avec nos enfants. Ce dialogue, je crois qu'on l'a toujours eu avec nos enfants. On a toujours essayé de discuter de tout, donc tous les sujets sont permis, enfin, pourvu qu'ils aient la possibilité de s'exprimer. Enfin, j'ai toujours eu comme idée que je voulais absolument que si mes enfants avaient un problème quelconque, ils sachent qu'ils pouvaient s'exprimer à la maison, en particulier. Alors je pense que c'est peut-être parce qu'on avait appliqué avant la lettre le dialogue et la participation. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de problème, hein, attention. Enfin. Puis alors, je pense aussi que malgré tout, c'est pas contradictoire du tout. Et je pense que les deux choses doivent se retrouver encore une fois sur le plan politique. Et je crois aussi à l'autorité. Malgré cet esprit de dialogue et participation, les enfants savaient très bien que malgré tout.
Je voudrais vous demander, si vous avez parlé d'autorité, vous avez parlé tout à l'heure du sens des mots et de la façon dont les mots perdent leur sens. Vous êtes donc très conscient enfin, de cette question sémantique. Comment voyez-vous le mot d'autorité? Est-ce que vous pourriez essayer de
définir? Encore une fois, je crois qu'il faut le définir. Alors, dans ces différentes applications, là, on vient de parler de la famille, si vous voulez. Bon, ben, je pense que c'est un problème d'ailleurs important. Il y a une quantité de familles où il se pose des problèmes parce que, je crois, ce problème d'autorité a été diversement apprécié, soit parce qu'on en a abusé, soit parce qu'on l'a complètement ignoré. Encore une fois, j'aime bien prendre des choses précises, concrètes. J'ai un exemple douloureux à côté de moi, mes beaux-frères qui est médecin, qui est un garçon absolument délicieux et qui a comme politique d'être vraiment... Il a une vie professionnelle évidemment harassante et il pense que quand il est avec ses enfants, c'est pour se détendre. Alors il se détend, c'est le copain de ses enfants, moyennant quoi? Moyennant quoi, il n'y a aucune autorité. Aucune autorité en partie parce que, évidemment, ça lui est difficile, mais aussi parce que c'est contre son tempérament, contre sa nature, etc. Et alors, ça aboutit à des choses assez ahurissantes, enfin. Et ça aboutit aussi récemment à ce qu'un de ses enfants soit obligé de passer un an dans une clinique, une maison de santé, parce que c'est un garçon qui était devenu terriblement anxieux et personnellement j'ai pas besoin d'être psychiatre et même psychologue pour penser que c'est un garçon qui justement a tiré son anxiété de l'absence d'une autorité. Alors je crois que les enfants ont besoin d'une autorité dans la mesure où elle signifie une sécurité. Inversement, on me citait, c'est un exemple que je connais de moins près, mais enfin on me citait récemment mes amis psychologues, une famille d'Orléans, père et magistrat, et il y a des filles de 16, 17, 18 ans. Ben, ces demoiselles en sont encore au régime du 19e siècle de ne pas avoir le droit de sortir dans la rue sans être accompagnées. Ben, il est certain que 1968, c'est invraisemblable et qu'on peut penser que là, il y a un abus d'autorité qui risque de conduire à des catastrophes au moins aussi graves que celles de mon neveu. Et alors là, encore une fois, vous allez trouver que je me dérobe peut-être aux questions, mais je pense que. Et c'est pas facile à définir. Moi, je vous ai dit, chez moi, je pense que les enfants savent bien que je suis attaché à l'autorité. Je veux pas dire que quelquefois j'en ai peut-être manqué, quelquefois j'en ai peut-être abusé, lorsque l'homme est ainsi fait. Il y a des moments où on croit user d'autorité pour le bien de l'enfant. En réalité, c'est parce que tout simplement, on a la marre, on est fatigué, et puis on se rend compte après coup, quand on prend un peu de recul, que c'était pas tellement pour défendre l'autorité, mais pour défendre sa propre tranquillité. Mais je pense qu'à partir du moment où on a conscience quand même de constamment se reposer ce problème et de n'agir, de ne faire intervenir l'autorité que parce que véritablement on a conscience de défendre quelque chose d'essentiel pour l'enfant et non plus seulement par rapport à soi, que ça les enfants, tous les âges, y compris les adolescents, en ont parfaitement conscience. Récemment, tenez, je me fais une expérience il y a 3 semaines, et il s'agissait avec ma femme et certains de mes enfants, faire un certain voyage. Et il s'agissait de participer à une sorte de réunion. Et une de mes filles, qui en principe devait venir, et puis elle se trouvait invitée chez une autre amie, alors que on l'attendait là où nous devions aller. Elle était évidemment partagée. Bon, moi j'ai estimé que, en définitive, à 13 ans, 13 ans et demi, j'avais pas à lui imposer une solution plutôt qu'une autre. Que c'était à elle de décider qu'en définitive, il n'y avait rien d'essentiel d'engager ni d'un côté ni de l'autre. Elle pouvait parfaitement ne pas venir là où elle était attendue, dans la mesure où nous y allions, on pouvait l'excuser, enfin, ça ne posait pas de problème. Elle pouvait parfaitement répondre à l'invitation de son ami, ou au contraire la décliner, puisque enfin, c'était égal. C'était égal. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. Je lui ai dit qu'elle choisissait, c'était à elle de savoir ce qu'elle voulait. Et finalement, elle a choisi d'aller chez cet ami. Mais après, elle me dit, mais c'est rudement embêtant. J'aurais bien mieux aimé que vous me disiez ce qu'il fallait que je fasse. Alors, je crois que là, si vous voulez, si je cite cet exemple, c'est parce que je pensais que là, il n'y avait rien d'essentiel qui nécessite que j'engage mon autorité en disant, fais ceci, fais cela. Et que par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus important, qui est l'éducation de la liberté, de la responsabilité, et qu'elle a parfaitement senti, parce que c'est elle-même qui m'a dit, mais c'est rudement embêtant. Ça aurait été bien plus confortable que vous me disiez, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Qui d'ailleurs, à ce moment-là, ipso facto, se rebellait en disant c'est justement l'autre chose que je voulais faire.
On connaît ça.
Ça, c'est la règle.
Alors, vos enfants ont réussi à bien s'intégrer à la vie à Orléans, est-ce que...
D'une manière parfaite.
Oui. Et vous aussi, vous avez trouvé qu'Orléans, c'est une ville agréable?
Oui. Je dis ça aussi bien pour moi que pour ma femme que pour mes enfants, et je le dis d'autant plus volontiers que nous appréhendions beaucoup. On avait le sentiment, parce que nous venions nous-mêmes d'une ville de province, on savait très bien ce que c'était que... On a fait notre mea culpa, d'ailleurs, on s'est rendu compte que quelquefois, étant rouennais, eh bien, intégré à la vie rouennaise, on n'avait peut-être pas toujours eu le souci d'accueillir les gens qui arrivaient. Pas d'ailleurs parce qu'on ne voulait pas les accueillir, mais parce qu'on s'en rendait compte que... On s'est rendu compte après coup, parce qu'on est pris par tant de choses, qu'on ne fait pas toujours l'effort nécessaire. Or, je le dis très simplement parce que je me suis rendu compte qu'au contraire, ici, à Orléans, qui pourtant nous avait été dépeint comme une ville très fermée, très, très bourgeoise, très, très sévère, ben, on a eu la chance, peut-être de la chance, j'en sais rien, mais on a eu la chance de tomber sur des gens qui ont vraiment été très très accueillants. Et quand je dis très accueillants, on fait non seulement l'effort de nous recevoir, mais enfin de nous faire connaître, enfin, tout ça s'est fait très vite. Et je suis certain que si je proposais à mes enfants maintenant de retourner à Rouen, il n'en serait pas question. Enfin, pour eux, ils se sentent orléanais. Pour les enfants, bien sûr, ça va toujours beaucoup plus vite. Et puis à leurs âges... Enfin, même pour ma fille, par exemple, qui a 19 ans. Quand elle est arrivée à Rouen, à Orléans, elle n'avait donc que 15 ans. Mm-hmm. Elle était en seconde au lycée. Et là, j'appréhendais beaucoup pour elle, parce que c'est l'âge où on a des amitiés qui se sont déjà formées, qui peuvent être durables, et je dis cette coupure. Et bien, même pour elle, ça n'a pas fait de problème. Elle s'est très très vite intégrée, des tas d'amis, enfin, des tas suffisamment, parce qu'après tout, vous savez, quand on dit des tas de milieux qui vous reçoivent pas, bien entendu, mais même si vous me recevez, je pourrais pas y aller. Enfin, les journées n'ont 24 heures. On peut pas voir tout le monde, on peut pas tout faire.
Non.
Alors non, moi, j'avoue que je plais beaucoup à Orléans, des quantités d'amis, et... Très
que vous décriviez un petit peu les Orléanais en comparaison par exemple avec les gens de Rouen, enfin.
Moi je ne trouve pas énormément de différence. Ce sont des provinciaux comme les... Tout ce qu'on dit des Orléanais, tout ce qu'on dit des Rouennais, tout ce qu'on dit des Lyonnais, tout ce qu'on dit, en définitive, tout ce qu'on peut dire des provinciaux. Alors, il y a des différences bien sûr, je pourrais dire, mais ce sont des clichés tout ça. Enfin des clichés dans une certaine mesure. Il y a des cercles fermés dans toutes les villes, mais ce n'est pas les mêmes, et puis c'est tout. À Rouen, autrefois, parce que l'évolution économique les a fait disparaître, il y avait un cercle très fermé qui était celui du textile. Alors les industriels du textile, ça formait un certain cercle de gens qui ne recevaient pas n'importe qui, à l'intérieur duquel il n'est pas facile de pénétrer. Et c'était pour certains une certaine, comment dire, une forme de promotion que d'être reçu. Je me souviens, j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans. Pardon. Oui, si vous voulez fumer. Oui, je me souviens, c'est un petit détail. Mais enfin, j'étais chez des amis, une surprise partie. Et puis, je me rappelle encore une jeune fille un peu dans les chantages, et particulièrement goujate, et qui s'en va en disant « Ah, ben, maintenant, ostensiblement, je vais dans la vallée chez les Intels, parce que la vallée, c'était une des vallées de Rouen où il y avait toutes les industries, enfin, l'essentiel des industries textiles. Enfin, c'était visiblement, si vous voulez, si... Bon, Orléans, je pense qu'il y avait aussi des cercles du même genre. Il y a peut-être plus carrément une certaine aristocratie, par exemple, qui vit un peu refermée sur elle-même. Et... Mais je pense que tout ça n'a pas tellement d'importance. Il y a aussi un fait qui alors est visible à Orléans, comme il l'est à Rouen, c'est qu'il y a de plus en plus un brassage de population, que ces villes qui sont en expansion et qui augmentent, elles n'augmentent pas du fait de la natalité, évidemment, de leur propre population. Elles ne peuvent le faire que par l'apport de nouvelles couches qui se situent alors à différents niveaux. Les cadres, le personnel des entreprises, des administrations, et tout ça en fait remue, fait éclater complètement les classes, les couches traditionnelles. Enfin, encore une fois, moi je vais constater qu'on a été accueillis à Orléans, non pas seulement par des gens qui n'étaient pas orléanais, évidemment on a des amis qui sont comme nous, qui n'étaient pas orléanais, mais par des gens qui étaient authentiquement orléanais, enfin de vieilles familles orléanaises, et qui nous ont ouvert tout aussi amicalement leurs portes. Enfin, il y en a qui sont devenus pour moi des amis très intimes. Alors, je dis, moi, je crois que tout ça, comme m'a dit un jour, en parlant de quelqu'un d'autre, un ecclésiastique ici d'Orléans, il m'a dit, évidemment, il y a des gens toujours qui trouvent qu'on ne les accueille pas assez bien, mais est-ce qu'ils ont la volonté d'être accueillis? Je crois, si vous voulez, que pour s'intégrer, il faut quand même les deux. Il faut évidemment que les gens soient prêts à vous accueillir. Mais encore est-il qu'il faut aussi avoir le désir d'être accueilli. Et je crois que... Moi, j'en ai fait l'expérience, encore une fois.
Alors, je crois, monsieur, que nous avons pris déjà beaucoup de votre temps. Et vous nous avez parlé...
Ben, je ne sais pas si ce que je vous ai dit...
C'était très intéressant ce que vous avez dit, c'est très précieux ce que vous nous avez...
Je serais, jusqu'à mon tour, je vais vous poser une question. Je serais curieux de savoir quelle valeur ça pourra avoir alors dans l'optique de votre expérience à vous sur le plan donc de l'éducation linguistique. Alors, qui je comprends bien, n'est pas seulement linguistique, mais enfin d'initiation tout de même alors à une certaine civilisation française, enfin une certaine conception de la vie sociale en France.
Évidemment, le poisson ne sait pas qu'il nage dans l'eau. Vous ne savez pas que vous êtes entouré par un élément extrêmement intéressant, parce que vous êtes français, vous parlez français spontanément, naturellement. Alors vous ne vous rendez pas compte de l'intérêt que peuvent présenter, n'est-ce pas, de petites phrases, de rien du tout, que vous sortez tout à fait naturellement, n'est-ce pas, pour des Anglais. Parce que dans beaucoup de ces phrases, il y a toute une expérience de générations, plusieurs générations, n'est-ce pas, qui définit une façon de voir les choses qui est ou bien légèrement ou bien très différente de notre façon de voir. Alors, sa présence, surtout quand quelqu'un parle plus ou moins spontanément, comme vous l'avez fait maintenant, ça représente pour nos étudiants quelque chose qu'ils ne peuvent jamais avoir ailleurs. Ça, on ne le trouve pas dans les bouquins, on en trouve un petit peu à la radio, mais malheureusement on ne peut pas capter les postes intéressants en Angleterre. On n'a que France Inter ou Europe numéro 1. C'est pareil.
Même vous voyez le mot parti politique, ça ne veut pas dire la même chose en Angleterre, comme vous le savez très bien. Oui. Et les Anglais ne s'en rendent pas compte sans écouter un Français parler des partis, des groupes, des intérêts politiques, comme vous l'avez fait.
Moi, au moins une cinquantaine de fois, j'ai tiqué en me disant, tiens, ça c'est un point intéressant à expliquer.
Oui.
D'ailleurs, le fait que dans une réunion comme celle-ci, vous employez des expressions non pas argotiques, mais familières, n'est-ce pas?
Oui.
Ça montre qu'un monsieur sérieux, qui parle sérieusement de choses sérieuses, dans la mesure où il est dans un petit groupe relativement intime, n'est-ce pas, il emploie beaucoup d'expressions qu'on ne trouve pas dans le français écrit.
C'est certain que...
Et tout le monde le fait.
Oui, bien sûr.
Tout le monde le fait. Et il est intéressant de... Ça, c'est entre autres choses, c'est intéressant.
Je vous dirais d'ailleurs que je pense précisément avoir été un peu dans l'esprit de ce que vous cherchiez en ne me surveillant pas.
Enfin, exactement, exactement.
Il est certain que dans d'ailleurs, une autre vie, peut-être, parce que je ne me serais davantage surveillé, que j'aurais peut-être pas employé certaines expressions.
Non, mais il serait intéressant du point de vue linguistique si, par exemple, à un moment, l'occasion se présentait de vous enregistrer en train de faire... un discours plus ou moins formel politique,
oui.
Et de comparer les deux registres du langage, n'est-ce pas?
Alors écoutez, ça, il y a une chose que je peux peut-être vous proposer, je dis peut-être parce que ça ne dépend pas de moi uniquement. Il se trouve que au début du mois, j'ai participé à un congrès où j'ai fait une intervention dont je sais qu'elle a été enregistrée.
Oui.
Alors, ce sont des amis, bien sûr. Et, je ne sais pas, est-ce qu'on peut recopier une bande
de traînements?
C'est blanche. Hein. Alors, ça, je sais que, parce que sont très bons amis, si l'enregistrement est bon, ce que j'ignore, parce que je ne les ai pas vus encore, je dois les revoir bientôt, peut-être même aujourd'hui. Et est-ce que, éventuellement, dans cet esprit-là, ça peut vous intéresser de les revoir?
Oui.
Parce que là, c'est différent, c'était. Là, c'était quand même, si vous voulez, une intervention d'une demi-heure, je crois, à peu près. Je ne me rappelle pas, parce que j'avais droit à 10 minutes. je sais que ça a dû durer à peu près une minute. Et devant 1500 personnes, alors évidemment, ce n'est pas du tout la même chose.
Ah oui, ça serait précieux, n'est-ce pas, de pouvoir étudier les différences.
Parce que j'ai une heure demandée.
Vous voyez, vous, comme moi, dans ma langue, mais... en français aussi, j'y arrive de temps en temps, enfin, mais moins en français parce que je ne suis pas français. Mais dans ma langue, comme vous dans la vôtre, vous passez facilement et sans y réfléchir d'un registre à l'autre. Vous vous ajustez d'après les circonstances. Et on n'est pas conscient de ça. Nous, les linguistes, on étudie ces questions-là, mais le sujet même, le sujet parlant, comme on dit, n'est pas conscient de le faire. Mais d'avoir deux enregistrements, et justement, qui vous montrent dans ces deux rôles différents, ce serait très intéressant. Alors, si c'était possible.
Oui, ce serait vraiment un privilège.
Oui, écoutez, j'essaierai, alors, à partir du marché, alors, sur le fond, je pense que peut-être aussi, alors, ça permettra de développer davantage un point que j'ai évoqué, qui est celui de la liaison entre mon engagement confessionnel et mon engagement politique. Puisque précisément le thème de mon intervention était de savoir, d'expliquer et comment je concevais mon engagement politique en tant que catholique.
Très bien, oui. Est-ce qu'on pourrait vous poser juste une petite question?
Oui, mais je vous en prie.
Justement, enfin, dans cette perspective-là, vous avez parlé de votre attitude vis-à-vis du communisme, et je crois qu'enfin ici nous comprenons un peu ce que vous avez voulu dire. Mais à l'usage, par exemple, de gens qui connaissent moins la politique française, il serait peut-être intéressant que vous puissiez développer un petit peu ce que vous pensez, quelles sont vos raisons profondes, si ce sont des raisons enfin, d'expérience politique ou si ce sont des raisons, disons, philosophiques ou religieuses, enfin, quelles sont, de quel point de vue, jusqu'où va, disons, votre opposition au communisme?
Les raisons profondes de mon opposition au communisme sont indiscutablement d'ordre philosophique et religieux. Puisque je pense que là, il y a une impossibilité fondamentale de s'entendre à partir du moment où il s'agit, j'entends bien, du communisme. Jamais que je puisse me trouver demain tête à tête avec un communiste, mon attitude ne sera pas vis-à-vis de l'homme la même que vis-à-vis de la doctrine. En plus qu'il peut y avoir un décalage important entre la doctrine et l'homme. Beaucoup qui se disent communistes, en réalité, ne savent pas même exactement ce qu'est le communisme dont ils se réclament. Pour beaucoup, c'est simplement une sorte de doctrine sociale un peu plus avancée, et c'est tout. Et là-dessus encore, on risque quelquefois de se rejoindre. Enfin là, je parle d'un communiste, plutôt du communisme et de ceux qui, véritablement, le présentent d'une manière authentique. Il y a, à mon avis, pour un chrétien, que j'essaye d'être, une impossibilité fondamentale de s'entendre, puisque la position respective des valeurs est exactement à l'inverse. Pour moi, dans une perspective chrétienne, le respect de l'homme est fondamental en tant que tel. Alors que, discutablement, dans la perspective communiste, l'homme n'existe que collectivement et doit être sacrifié éventuellement à la société impersonnelle. Donc, je pense que là, si vous voulez, il y a au départ ou à l'arrivée, comme on voudra, enfin, une opposition fondamentale qui fait que on ne peut pas véritablement s'entendre, et que je suis personnellement, malgré tout ce que je vous ai dit sur mon ouverture à l'unité, au dialogue, etc., je pense que s'il y en a avec lesquels le dialogue n'est pas possible et est condamné à l'impasse, ce sont les communistes. Disons le communisme. Alors, en ce qui concerne l'expérience personnelle, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais, à l'issue de la résistance, et collaborer avec des communistes, et non des moindres, Roland Leroy du comité central, évidemment, enfin qui est maintenant du comité central, à l'époque il était comme moi, il était tout jeune, et donc avec tout son appareil politique. Et puis j'ai constaté que, en fait, dans la pratique, eh bien, c'est le coup de Prague à tous les instants. Alors je pense que ceux qui parlent du communisme n'ont jamais entendu, n'ont jamais. Je m'excuse, je ne connais pas vos convictions, il y en a peut-être parmi vous, je le dirai d'ailleurs tout aussi librement, comme je l'ai déjà fait dans le passé avec certains communistes. Je pense que, en définitive, il faut ne rien connaître du léninisme, parce qu'il n'y a pas que Marx, il y a aussi Lénine, pour oser croire qu'on peut collaborer sincèrement avec les communistes. Chaque fois qu'on collabore sincèrement avec les communistes, on est, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous êtes enregistré, mais tant pis, c'est une expression bien française, et on est vulgairement couillonné. Et ça, il n'y a pas une seule exception, à mon avis, qu'on puisse relever. Et ce à quoi on assiste actuellement en Tchécoslovaquie, on est malheureusement l'illustration une fois de plus. Alors, si vous voulez, raison philosophique et raison d'expérience, je pense que la collaboration est tout à fait impossible. Ça ne veut pas dire que, dans certaines circonstances, on ne soit pas amené, je pense par exemple à des conseils municipaux, et bien si par la force des choses on se trouve dans un conseil municipal avec des communistes, et bien ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut voter systématiquement contre, quand il s'agit par exemple de voter les crédits d'une piscine. Ça, c'est autre chose.
Vous aviez dit tout à l'heure qu'éventuellement, si naissait en France un parti travailliste, vous seriez le premier à y adhérer. Vous semblez donc faire une distinction importante entre les gens de la Fédération, par exemple, et les gens du Parti communiste. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu pour les Anglais, enfin, quelle différence marquante, enfin, vous voyez entre le Parti socialiste, enfin, et le Parti communiste.
Vous savez que la Fédération de la gauche est née, elle aussi, d'une idée de rassemblement qui dépasse les données du Parti socialiste, puisque au sein de la Fédération de la gauche, il y a le Parti socialiste, mais il y a aussi le Parti radical et une troisième famille politique, puisqu'on a parlé de famille politique, qui à l'origine n'était pas d'ailleurs... C'était un fait nouveau dans la vie politique française, puisque c'était précisément par un parti, qui est la Convention des clubs. Vous savez qu'à une certaine époque, en France, tas de gens qui, s'intéressant à la politique, sans vouloir pour autant s'engager, dans la mesure où l'engagement signifiait l'adhésion à un parti politique organisé, ont constitué des clubs. Il y a eu le club Jean Moulin, il y a eu Horizon, etc. Enfin, il y avait des quantités de gens qui faisaient de la politique sans en faire tout en faisant. Et puis ils ont quand même découvert qu'il fallait bien que cet engagement politique débouche sur quelque chose, qui se sont donc retrouvés, je schématise évidemment rapidement, mais enfin, ils se sont retrouvés au sein de la Fédération de la Gauche à travers la Convention des clubs. Donc cette Fédération de la Gauche, c'est déjà un point important à marquer, est déjà elle-même le fruit d'un certain rassemblement. Mais ce que personnellement je reproche à la Fédération de la Gauche, ce qui fait que je n'y suis pas, parce qu'autrement j'y serais, parce que ce serait en somme déjà, si vous voulez, la préfiguration de ce parti travailliste, c'est que, nonobstant un programme politique qui, en définitive, sur ces points essentiels, a mon adhésion, qui est pratiquement le même que celui que nous, au Centre démocrate, nous défendons à un certain nombre de nuances près, ce que je lui reproche, c'est pour des raisons électorales, et nous revenons d'ailleurs à cette loi électorale à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, pour des raisons électorales, a fait alliance avec le Parti communiste. Car aucun membre sérieux, je ne sais pas si au cours de votre travail vous aurez l'occasion de faire avec des gens de la Fédération de la Gauche que vous avez fait avec moi, mais je ne pense pas que vous puissiez trouver un membre sérieux de la Fédération de la Gauche, j'en connais, ici à Orléans, qui puisse vous dire le contraire, leur alliance avec le Parti communiste n'a pas d'autre justification qu'électorale. Autrement dit, ils ont voulu éviter ce qui nous est arrivé, ce qui en définitive leur est quand même arrivé la dernière fois, ils n'ont en définitive pas évité, mais enfin la première fois ça paraissait payant, à savoir de ne pas avoir au Parlement la représentation qui correspond à la proportion constatée dans le corps électoral. Alors, c'est un simple calcul électoral, ce qui fait que d'ailleurs, comme on a bien senti malgré tout que l'opinion était un peu plus exigeante, que vous alliez avec le communisme, alors c'est quand même pour faire quelque chose ensemble, donc il faut un programme commun. Alors on parle constamment de ce programme commun, puis ce programme commun, il n'aboutit jamais, on n'en a encore jamais vu. Et pourquoi? Parce qu'il paraissait impossible. Il y paraissait parce que alors là, je rejoins aussi une question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a évidemment une donnée nouvelle, c'est l'attitude du Parti communiste à propos de Prague. Et ça, c'est un aspect aussi, alors moi, je me contente de poser le point d'interrogation, comme vous le faisiez, quelle influence cela va-t-il avoir précisément sur la Fédération de la Gauche? Et c'est un point très important, à mon avis, pour l'avenir politique en France, enfin, au moins l'avenir des prochaines années. Je ne sais pas. Est-ce que ça va les rapprocher davantage, ou au contraire marquer l'éclatement, je n'en sais rien.
Encore une fois,
nous
ne pourrions pas parler à nous, ça nous intéresserait de rester ici toute la journée.
Peut-être une dernière question.
Oui, bien sûr.
Si vous avez encore un peu de temps.
Oui, je vous en prie.
Vous aviez parlé tout à l'heure.
Je n'ai que ma fille aînée en ce moment comme gouvernante.
Tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez parlé de classe moyenne. J'aurais voulu savoir si vous pourriez expliquer un peu la notion de classe pour les Anglais et dans quelle mesure enfin, cette notion est pertinente du point de vue, enfin, ce qu'elle recouvre du point de vue sémantique enfin, pour un Français.
Je crois avoir appris quand je faisais de l'anglais qu'il y avait en Angleterre la high class, et lower class et middle class. C'est bien ça?
C'est bien ça.
En France, c'est plus compliqué, parce que, enfin, je vous avoue que là, vous me posez une question embarrassante parce que je me la suis souvent posée. Et si je vous ai parlé de classe moyenne tout à l'heure, c'est parce que c'est une terminologie couramment employée, parce que ça correspond un petit peu à ce qu'on pense. Mais en fait, c'est plus complexe, car depuis que la France n'est plus une monarchie, un petit bout de temps, et l'aristocratie n'existe plus qu'à l'état de survivance. Une survivance d'ailleurs assez tenace, parce que frappant de constater combien de gens sont très désireux de fouiller dans la généalogie pour essayer de retrouver un semblant de particule. Mais il y a eu par contre évidemment une haute bourgeoisie industrielle qui s'est constituée, et puis une bourgeoisie commerçante, une classe paysanne extrêmement importante qui, du fait de l'évolution des choses, est en voie de régression à la campagne, mais enfin qui a alimenté les villes. Et puis, un milieu commerçant artisan qui lui aussi a subi une certaine évolution, mais qui est actuellement dans un sens aussi régressif. Et puis, du fait de l'industrialisation, la création de toute une classe de techniciens, de cadres moyens, etc. Si bien qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il est assez difficile de s'y retrouver. Et je voudrais vous donner un simple exemple. Et je me réfère à nouveau cette fois à c'est une référence de caractère confessionnel, je m'en excuse, mais enfin, vous savez qu'il y a en France des mouvements d'action catholique spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a l'action catholique ouvrière qui a pour but d'évangéliser les milieux ouvriers à travers les militants ouvriers. Et il y a une action catholique des milieux indépendants. On veut dire indépendant par opposition aux milieux ouvriers, c'est-à-dire, en principe, ça recouvre la classe bourgeoise. Or, il est frappant de voir que dans ce mouvement, que je connais bien, qui appartient ici, on est obligé de tenir compte d'un nombre important de nuances. Le milieu dit bourgeois, recouvrant en réalité plusieurs milieux. Car, si vous voulez, prenons l'échelle d'une ville comme Orléans, supposons par opposition la constitution d'une équipe d'action catholique ouvrière. Ça ne posera pas de problème. Dans un quartier déterminé, on trouvera un type qui travaille comme tourneur chez Renault, on en trouvera un autre qui est employé de magasin, on trouvera un autre qui est ceci, tout ça. Aucun ne contestera le fait qu'il appartient au milieu ouvrier. On pourra les réunir, etc. Dans la même ville d'Orléans, essayons de constituer une équipe de gens qui voudront, dans leur optique, dans leur esprit, participer à l'évangélisation du milieu bourgeois. Eh bien, si vous prenez le pharmacien, l'industriel, l'avocat, l'employé de banque, j'en parle d'employé cadre de banque, ben vous ne pourrez pas les mettre ensemble, parce qu'ils n'estimeront pas appartenir au même milieu. L'industriel estimera qu'il appartient à la haute bourgeoisie. Si vous y ajoutez le capitaine du 2e hussard qui est comte baron, et vous aurez encore une cinquième nuance.
Est-ce que vous pourriez décrire un peu systématiquement les différentes nuances à l'intérieur de la bourgeoisie?
Alors si vous voulez, on est arrivé, puisque maintenant l'aristocratie n'a plus d'existence légale en France, donc si vous voulez, il n'y a pas de mouvement propre à l'aristocratie, mais à l'intérieur même de ce mouvement destiné à la bourgeoisie, enfin aux milieux indépendants, si vous voulez, au fond, par opposition au prolétariat, quoi, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens d'existence indépendants. Enfin, encore que ça ne veut pas dire grand-chose non plus, tout ça, parce que là-dedans, il y a des directeurs de société, des ingénieurs, des cadres supérieurs qui sont en définitive des salariés, tout comme l'ouvrier, enfin, du point de vue strictement juridique. Mais, alors, on est amené à constituer tout de même des équipes d'aristocratie. Il y en a ici, à Orléans, parce qu'il y a quand même un certain cercle aristocratique, assez important d'ailleurs, de haute bourgeoisie, qui correspond en gros au milieu industriel, enfin industriel au sens propriétaire d'industrie, et de bourgeoisie tout court, alors là, ça correspond aux professions libérales, médecins, avocats, etc. Et puis de classe moyenne. Et oui, on retrouve les classes moyennes à ce moment-là. Mais comme simplement une des composantes. Et alors, dans les classes moyennes, là, elles prennent une allure de charnière entre le milieu ouvrier et le milieu bourgeois. Elle est d'ailleurs souvent composée de gens qui sont en provenance soit du milieu rural, soit du milieu ouvrier, et qui ont accédé à une situation de commerçants, d'artisans, ou de cadres moyens, dans l'industrie ou dans le commerce, et qui constitue alors un petit peu cette classe moyenne de gens qui sont, comment dirais-je, qui sont des bourgeois en potence en virtuel, hein, qui sont des bourgeois potentiels. D'ailleurs, tout le monde est bourgeois potentiel, on ne sait même pas. Les moins bourgeois, ce sont les bourgeois qui s'empressent de renier leur bourgeoisie. Voilà, en gros, si vous voulez, enfin, c'est...
Est-ce qu'on peut parler vraiment de classe, en
fait ? Je crois qu'on peut de moins en moins en parler. Je souhaite personnellement qu'on arrive à en parler de moins en moins, mais enfin... Entre ces désirs et ces réalités, il y a une nuance. Je voudrais vous citer une petite expérience, mais c'est moi qui vais vous retarder. Et je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, c'était à Rouen, j'étais encore, nous étions relativement jeunes mariés. Et il y a une quinzaine d'années, c'était donc aux environs des années 50, 52, quelque chose comme ça. Le problème du logement était encore extrêmement aigu, on n'était pas encore relevé des ruines, surtout dans une ville comme Rouen, en Normandie, qui avait été terriblement détruite. Et nous avions eu l'occasion d'avoir un appartement dans une cité qui venait de se construire sous l'impulsion d'un homme que j'ai bien connu et aimé d'ailleurs, bien qu'il fût socialiste, et qui était conseiller général, et qui avait dans ses vues d'un socialisme idéal, construit cette cité qui avait un certain standing, bien que ce fût avec des crédits HLM. Vous savez, HLM, c'est l'habitation à loyer modéré qui maintenant sont destinées à des gens de moyens très modestes, puisque d'ailleurs maintenant on ne peut plus avoir de logement dans ces constructions que si on justifie d'un revenu inférieur à un certain plafond. Mais à cette époque-là, ce n'était pas encore ça, et sous l'impulsion de ce conseiller général socialiste, il avait voulu au contraire faire une réalisation qui soit un petit peu la préfiguration d'une société sans classe, et il avait délibérément cherché à y mettre des gens de toutes conditions sociales. Si bien que dans cette cité de peut-être 150 ou 200 logements, on trouvait des magistrats, des professeurs, des industriels. C'était une époque où on ne trouvait pas de logement, alors c'était assez facile. Même un industriel dont la maison avait été détruite était bien content de trouver un appartement, même relativement modeste. Encore que, justement, il avait tenu à ce que les choses, c'était pas mal. Enfin, mais on y trouvait, moi, si vous voulez, pour prendre mon exemple, dans ma cage d'escalier, il y avait en dessous de moi un docker, au-dessus de moi un professeur, sur le palier d'à côté un industriel, et enfin, tout ce monde-là était vraiment très mélangé, comme jamais ça ne s'était produit. Et puis, je me rappelle que, je m'excuse, encore une référence confessionnelle, mais enfin, sur le plan paroissial, on avait pris contact avec le curé, qui était un de mes amis d'ailleurs, un jeune prêtre très dynamique. Et puis, on avait un petit peu pensé que sur le plan religieux, on allait trouver la même, la projection de cette société sans classe, et qu'on allait former des cercles d'action catholique où il ne serait pas question justement de milieu ouvrier, de milieu bourgeois, etc. Et bien très vite, au bout d'un an, on s'est aperçu que pour des raisons d'éducation, d'habitude de vie, et bien les classes sociales se sont reconstituées d'elles-mêmes, bien qu'au départ on ait tout fait pour... Je m'excuse parce que je vois qui a sonné, je ne sais pas, il n'y a personne. Les premiers, mais il y avait un certain nombre de choses, et je me rappelle dans certaines réunions par exemple, cette facilité que certains d'entre nous avaient sans s'en rendre compte d'ailleurs, de s'exprimer, de prendre la parole, et qui faisait que les autres se sentaient un petit peu brimés. Et très vite, on a dû se rendre compte que pratiquement, mais il fallait bien admettre qu'il y avait encore des distinctions sociales, donc il fallait en tenir compte, comme d'un fait, tout en y accrétant peut-être. Enfin.
Et des distinctions d'origine surtout de la formation peut-être.
Qui tiennent beaucoup plus à la formation, formation et éducation aussi, quand même. Enfin, les deux choses sont... Enfin, je pense que vous faites la distinction souvent entre formation sur le plan intellectuel et l'éducation dans ce qu'elle implique, un contexte familial, des traditions, des habitudes de vie. Je pense que les deux intervenaient.
Mm-hmm. Puisque l'origine sociale même.
Oui, puisque je vous dis, dans cette expérience, ce qui était frappant, c'est que, alors, on avait tous les mêmes logements, Il n'y avait même pas les signes distinctifs qu'il y a maintenant, enfin qu'il aurait pu y avoir de voitures, par exemple. C'est une époque où même les voitures étaient encore assez rares. Beaucoup d'entre nous, même en ayant les moyens, n'avaient pas de voiture. Donc, ou les voitures, c'était des 4 chevaux. Enfin, il n'y avait pas, si vous voulez, de signes extérieurs frappants. Donc, ça n'a pu se constater assez rapidement, au coup à coup, que par des habitudes de vie ou toute une formation intellectuelle.
Et est-ce que maintenant, d'après vous, la différence tient davantage à la profession des gens ou plutôt à des signes extérieurs, comme la possession d'un certain nombre d'objets?
Je pense que les signes extérieurs deviennent de moins en moins un critère. Je ne sais pas si vous êtes fichu maintenant de reconnaître dans la rue, dans une réunion, des bourgeois de ceux qui ne sont pas.
D'après vous, quels sont les critères enfin, les plus pertinents?
C'est assez difficile, mais il y en a un qui, je crois, alors il doit résulter, ça c'est pas un signe extérieur, il doit résulter d'une certaine fréquentation, d'une certaine connaissance des gens, c'est l'influence et le rôle de la femme dans le foyer. Et plus on monte dans l'échelle sociale, et plus l'homme garde jalousement son autorité. Et dans les classes moyennes, si je cite ça, parce que c'est le résultat de constatations encore assez récentes sur des problèmes assez précis. Et il est fréquent, et dans le milieu populaire, ou même dans les classes moyennes, la femme a le contrôle du budget, par exemple. Le mari amène sa paye, ou bien la commerçante tient la caisse, et c'est la femme qui, en fait, est ministre des finances de la famille. À l'échelon de la bourgeoisie, de l'aristocratie, mais enfin, classe élevée, c'est pas du tout ça. C'est monsieur qui signe les chèques, et je connais des ménages où pas question de donner même la procuration à sa femme. Ou bien madame a son compte en banque que monsieur alimente, plus ou moins généreusement. Enfin, de toute façon, les intérêts de la famille, c'est monsieur qui en est le gérant, le responsable, et qui n'admettrait pas qu'il en soit autrement. Il y a même, si vous voulez, des relations que certaines femmes n'accepteront pas sans être certaines que leur mari sera d'accord. Sur le plan de l'éducation des enfants, c'est la même chose. Enfin, je crois que cette prédominance du rôle de la femme est une certaine façon un certain signe. Et moi, je me rends compte dans ma clientèle, sur un plan professionnel, il y a des gens où je sais que je ne ferai pas d'affaires si je n'ai pas l'avis de la femme. Et il y en a d'autres où je sais qu'il faut au contraire que j'en discute avec monsieur et qu'il n'est pas du tout question que madame soit dans le coup.
Donc c'est une question d'autorité masculine. Enfin.
Enfin, tout ça, c'est, vous savez, ça tend de plus en plus à s'atténuer. Et ce sont des... Enfin, je crois qu'on on pourrait trouver aussi des exemples où c'est infirmé. Enfin. Moi, je me situe au milieu. On décide tout. Je suis centriste jusqu'au bout.
Socialement, alors, comment...